des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir crise de liquidité à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, bien qu'en sigle. Le gouvernement rassure et invite les clients à continuer à faire confiance en cette banque qui n'est pas en faillite, mais qui connaît des difficultés passagères. Dans notre deuxième et dernier thème, il sera question de la rencontre de Bruxelles entre Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi sur une éventuelle candidature unique de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat José Boto, journaliste indépendant. Bonsoir José.
Bonsoir.
Jean-Claude Bimoila, éditeur et directeur des publications du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Kelly.
Et Josquin Kelinda Nkolé, éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille Bounia. Il intervient depuis la province de l'Itouri. Bonsoir Josquin Kelinda.
Bonsoir.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
Crise de liquidité à la BIAC, rencontre Katumbi Tshisekedi et prise de position de l'UDPS au sujet de la candidature unique à l'opposition, c'est parmi les sujets sur lesquels reviennent les journaux de Kinshasa. C'est ainsi que le potentiel, le titre, dossier BIAC, Matata fixe l'opinion. Dans une mise au point à la presse, le Premier ministre a affirmé que la BIAC, au regard de son réseau, est une banque systémique. Sa disparition peut avoir des effets collatéraux importants, précise Matata. Mais sa sauvegarde ne doit pas se faire au détriment de la préservation du patrimoine commun. Le phare constate et titre BIAC après la réouverture, les rounds d'observation. Selon ses quotidiens, même si les retraits des fonds restent encore plafonnés, le fait que les clients ont de nouveau accès à leur compte a constitué un grand soulagement pour ceux-ci. La banque et sa clientèle se trouvent ainsi engagés dans les rounds d'observation. Au sujet de la candidature unique à l'opposition, le palmarès titre « Guerre larvée entre le G7 et l'UNC ». Kamere et désavoue Moïse Katumbi. Ce quotidien annonce que l'opposition RD congolaise était mal partie pour une candidature unique à la prochaine présidentielle attendue au pays avec beaucoup de ferveur. En effet, poursuit ce journal, à la suite de la proposition de Moïse Katumbi comme candidat du G7 à la présidentielle et de la démarche de ces derniers vers Tshisekedi à Bruxelles, Vital Kamere a réagi avec une certaine virulence, dénonçant des manœuvres visant à fragiliser l'opposition. La réplique du G7 ne s'est pas fait attendre. Dans les minutes ayant suivi l'intervention de Vital Kamere sur TV5, le G7 est monté au créneau. C'est Christophe Lutundula qui s'est chargé de la besogne. D'entrée des jeux, il a soutenu que l'investiture de Moïse Katumbi comme candidat du G7 à la présidentielle de 2016 ne remet pas en cause les combats des forces du changement pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Lutundula estime qu'au même moment que l'ensemble de l'opposition se mobilise contre les glissements, les ambitions pour la course à la magistrature suprême doivent s'exprimer. Agir autrement, c'est jouer le jeu de la mouvance kabyliste qui multiplie des stratégies pour conserver le pouvoir en contournant les élections, surtout présidentielles, fixées par la Constitution, a-t-il poursuivi. De son côté, Forum des As revient sur le point de presse de l'UDPS, au cours duquel son secrétaire général a indiqué que le parti de la 10e rue n'est pas concerné par les débats ambiants autour du candidat unique à l'opposition, rappelant qu'en 2011, Étienne Tshisekedi Wamulumba avait gagné la présidentielle en dehors de toute alliance avec d'autres formations politiques. Panama Papers et le silence inquiétant de Kinshasa sur cette tempête des tropiques qui rappelle qu'il est enregistré à travers le monde de diverses réactions autour des révélations faites par Panama Papers sur les bagatelles sommes d'argent détournées par des personnalités bien identifiées qui les ont mises à l'abri au Panama en Amérique latine. Des pays dont les ressortissants sont cités dans ces scandales financiers ne cessent de se prononcer sur cette évasion fiscale aux conséquences désastreuses sur la marche de leurs économies respectives. C'est le silence le plus assourdissant de la part de Kinshasa qui inquiète alors que le pays est cité dans ces dossiers. Sous le chapitre sportif, le site 7 sur 7 publie « Dieu merci Mbokani, déçu par Constant Omari, claque la porte des léopards ». Les déclarations du président de la FECOFA, Constant Omari, annonçant des éventuelles sanctions contre Dieu merci Mbokani Bezoua, n'ont pas laissé indifférent ces derniers. Il vient de décider de mettre fin à sa carrière avec la sélection RD congolaise. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Mathieu pour ce journal de journaux. Revenons sur l'affaire Panama Papers, affaire dans laquelle certaines personnalités congolaises sont citées. Il y a 5 ONG de droits de l'homme, ACDH, Azado, CDH, IRDH et HDH, qui exigent des enquêtes sur les allégations des fraudes fiscales massives et blanchiment d'argent opérées par ces personnalités et leurs proches. José Bouto, comment vous analysez cette information?
Merci Kelly de la parole d'abord, et surtout merci de l'invitation. Alors, ces dossiers des Panama Papers, ça laisse un peu dubitatif à tout le peuple congolais. Parce que c'est d'abord, quand on voit l'ampleur que cette affaire prend au niveau mondial, et que chez nous, on essaye de banaliser la chose, c'est pas très intéressant. Parce que la morale publique, c'est le fondement de tout en fait. C'est un problème de morale, effectivement, au niveau de la classe dirigeante de notre pays. Ceux qui sont cités, je ne vais pas les citer ici, on peut lire ça dans... Ceux qui ont accès à ces dossiers, ils voient qui sont cités, et ce n'est pas des frétins, du menu frétin, Kelly. Alors, tous ces gens-là, c'est des modèles, en fait. Les dirigeants, c'est des modèles. Alors, quand il y a des situations comme ça, différentes, telles que celle de Panama Papers ici, qu'on cite des gens qui ont investi, qui dissimulent de l'argent par des verres dans des paradis fiscaux, et qu'on ne peut rien dire, il y a une sorte de, je dirais pas d'omerta, mais c'est tout comme, quoi, qui s'abat sur la RDC. Même la presse ne veut pas en parler, on en parle sur le bout des doigts, on ne veut pas avoir des problèmes, parce que c'est des personnes, quand vous les citez, vous avez des problèmes après. Moi, je trouve que ces personnes-là devaient elles-mêmes démentir ou confirmer comme le font. Moi, le monsieur Cameron, par exemple, on l'a cité, il a dit effectivement qu'il avait des actifs au niveau de ses paradis fiscaux des Panama, mais bon, c'était avant qu'il devienne Premier ministre, il a vendu tous ses actifs avant. Voilà des petits exemples comme ça. On a vu le Premier ministre de... C'est encore quel pays là, celui qui vient de démissionner là?
Islande.
L'Islande, par exemple, qui a démissionné. Donc c'est juste une question de moralité publique. Et nos dirigeants doivent apprendre à rendre compte au peuple. Voilà, Kelly, le premier commentaire qui me vient à l'esprit par rapport à ces dossiers.
Jean-Claude Bimoala, ces ONG ont-elles raison d'exiger des enquêtes sur ces allégations de fraude fiscale?
Oui, mais la démarche n'est pas achevée. Si ces personnes ne s'expriment pas, je pense que nous avons des institutions. Le procureur de la justice peut se saisir d'autorité sur ces différents dossiers. Et je pense que là, c'est une occasion pour cette institution de donner la preuve qu'elle n'est pas une institution sous la dictée de politique. Elle est capable de rendre service à l'État sur des questions importantes de l'actualité. Et là, c'est une question sur laquelle, si les intéressés ne s'expriment pas, le procureur peut se saisir d'autorité pour permettre à l'opinion publique congolaise d'étancher sa soif sur les différentes questions qu'elle se pose.
Jusqu'à Kalinda, vous êtes éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille Bounia. Vous intervenez depuis la province de l'Ituri. Quel est votre point de vue à vous par rapport à cette affaire? On vous entend très mal. Jusqu'à Kalinda, on vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez bouger un peu pour trouver... Allô?
Là, ça va?
Ça s'améliore un peu, allez-y.
Ah, je disais que moi, ça ne me surprend pas parce que en Afrique, les ridicules ne tuent pas. En Afrique, les gens politiques s'en foutent de l'opinion publique. Et ce qui se passe là par rapport à ce qu'il y a été dit, c'est que les gens ne se rêvent pas, ne se surprennent pas parce que même les institutions judiciaires, vous êtes là, vous savez combien de dossiers, la santé nationale, les jeunes, notamment les jeunes, tellement c'est le propre parti.
Alors, je crois qu'on a un problème avec votre ligne téléphonique. La réalisation va essayer de vous rappeler jusqu'à Kananda. On revient à Kinshasa dans ce studio avec José Boto. Une autre actualité qui est tombée hier soir, c'est la confirmation de Dem Kodjo, désigné comme facilitateur du dialogue national par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Zuma.
Oui, Kelly. Bon, je pense que il y aura plus de raisons maintenant pour que ces fameux dialogues aient lieu. Et ce que moi je tiens surtout à souligner, c'est par rapport à l'exigence de l'UDPS qui voulait que le facilitateur soit désigné par les Nations Unies. Mais alors, dans le communiqué qui est Madame Zuma a publié, elle cite nommément l'OIF, l'ONU et puis l'Union africaine. C'est ensemble qu'ils ont décidé de désigner M. Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue national congolais. Donc je pense que l'UDPS n'aura plus d'excuses aujourd'hui. Bon, on attend un peu sa réaction au pouvoir, hein, parce que jusque-là, elle ne s'est pas encore prononcée par rapport à la nomination d'Edem Kodjo. Et on verra. Et que vivement puisse se tenir ces dialogues, parce que tout est concentré là-bas, surtout au niveau de la majorité. La majorité ne jure que par les dialogues pour que la situation soit décantée.
Il y a même le secrétaire général de l'AMP qui a tenu un point de presse hier, jeudi, pour demander à l'opposition de venir au dialogue.
Oui, parce qu'elle ne jure que par les dialogues. Donc je pense que maintenant, il n'y a plus de raison. Et on verra à quoi ces dialogues va nous amener, finalement. Enfin, c'est ce qu'on veut, quoi. Parce que tout semble être bloqué autour du dialogue, là. Alors maintenant qu'il n'y a plus de raison, on a un facilitateur, c'est qu'il hésitait, c'est qu'il avait donné comme condition de participer au dialogue la présence d'un facilitateur. Maintenant, il est là, Edem Kodjo. Bon, c'est quand même quelqu'un de très expérimenté. Il n'est pas né de la dernière pluie, le monsieur. Nous espérons qu'il n'y aura plus de raison pour qu'il n'y ait pas ces dialogues-là, finalement.
Mais la personne d'Edem Kodjo était quand même contestée par certains partis de l'opposition. Vous pensez qu'ils vont accepter d'aller avec lui, Jean-Claude Bimola?
Je pense que c'est ce qu'on attend. La réaction de l'UDPS et d'une grande frange de l'opposition. Si ces réactions combinées restent négatives, je ne vois pas à quoi servira encore ces dialogues. Je ne sais pas comment il pourra s'organiser sans la grande force politique de l'opposition, qui est l'UDPS, et les autres partis qui ont déjà dit, qui ont déjà donné une réponse défavorable à ce dialogue. Je ne sais pas si les dernières évolutions au niveau de l'UA vont faire évoluer leur position. Sinon, je ne les vois pas encore.
Mais vous ne pensez pas, comme l'a dit José Boto, qu'on sent comme une sorte de blocage du processus électoral? Est-ce que l'opposition ne devrait pas finalement accepter d'aller à ce dialogue?
Oui, mais bon, l'argument de l'opposition, je pense qu'il me paraît plausible. Le problème qu'on veut résoudre à ce dialogue, je pense, le premier problème, c'est le problème des élections, les calendriers électoraux arrimés aux impératifs constitutionnels. Mais les autres disent, mais pourquoi n'avoir pas organisé les élections en temps voulu? Et maintenant, pour que nous allions aux élections, il faut un dialogue. Je pense que l'opposition ou le pouvoir doivent donner des gages sérieux pour convaincre tout le monde que ce dialogue ne va pas aboutir à une entorse de la Constitution.
Et la réalisation me signale que Josca est en ligne. Vous m'entendez, Josca Kanunda?
Je vous entends.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la province de l'Ituri?
Il y a cette histoire de la Sokimo, l'ancienne Okimo. Les agents de la Sokimo ont fait une marche ce jeudi, critiquant le fait que leur hiérarchie, c'est-à-dire leur PDG à Kinshasa, aurait signé une joint venture avec NRC Media, une société dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Ils ont fait la marche pour demander qu'on arrête ce contrat confidentiel parce que c'est la seule concession, la concession 51-10 à Nizi, à quelques 30 km de Bounia, la seule concession que la Sokimo pouvait encore avoir pour exploiter. Si cette concession est cédée à des tiers, la Sokimo n'aura plus où exploiter et ça sera la mort. Alors ils ont amené un mémo adressé au Premier ministre. Le mémo a été déposé au bureau du commissaire social Abdallah Penembaka. Il a reçu les mémos, il a promis de renvoyer les mémos au niveau du Premier ministre pour décision et il a promis aux agents de la Sokimo qu'il va inviter les PDG pour discussion à Bounia. L'autre actualité, c'est aussi il y a cette course au pouvoir depuis l'élection du gouverneur élu, Abdallah qui s'est succédé à lui-même. Les communautés de la place se battent pour que chacune d'entre elles puisse trouver un de ses représentants dans le nouvel exécutif de la province.
Ici, merci.
La donne communautaire prime sur la politique.
Merci Josquet Kalinda depuis la province de l'Ituri. Premier terme de ce soir, depuis la semaine passée, les clients de la BIAC ont des difficultés pour percevoir leur argent. Ils s'interrogent sur la viabilité de cette institution bancaire. Cette institution, considérée comme la troisième banque commerciale du pays, connaît des problèmes de liquidité. De son côté, le gouvernement affirme que la BIAC connaît des difficultés passagères et invite ses clients à continuer à faire confiance en cette banque qui n'est pas en faillite. Les détails avec vous, François Kadima.
La BIAC fait actuellement face à un problème de manque de liquidité, c'est-à-dire elle n'a plus assez d'argent pour faire face aux besoins de sa clientèle. Cela s'est manifesté par le plafonnement de retrait fixé par la BIAC, $500 et pas plus. Ceci a amplifié la crainte des épargnants et les rumeurs qui faisaient état d'une fermeture imminente de la BIAC. Des rumeurs que les dirigeants de la BIAC ont qualifiées de malveillantes, car pour eux, les fondamentaux de la banque sont solides, attestés par un audit de la Banque Centrale du Congo. Pour les spécialistes du secteur bancaire de la RDC, la BIAC est en train de payer les prix de sa naïveté. Et elle aurait prêté d'abord de l'argent à des clients insolvables, parmi lesquels des financements à certains projets de l'État congolais. Mais pour la BIAC elle-même, la crise est survenue lorsque la Banque Centrale du Congo a suspendu brusquement une ligne de financement qui alimentait la banque en francs congolais. Cette suspension a privé la banque de plus de l'équivalent de $40 millions. Le gouverneur de la Banque Centrale du Congo a affirmé que la Banque Centrale a donné assez de liquidités pour assurer la bonne marche de la troisième banque du pays.
Merci François Kadima. Jean-Claude Bimoala, éditeur et directeur des publications du journal Climat Tempéré, c'est un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Comment vous analysez cette situation de la BIAC?
Oui, pour ceux qui suivent l'actualité économique, ils savent que cette banque n'est pas sa première difficulté. Il y a 5 ou 6 ans, on signalait déjà beaucoup de cas de détournement. Le tout dernier était, je pense, c'est DG français qui s'en est allé avec 8 millions.
5 millions, je crois.
5 ou 8 millions
de dollars.
Oui, tout ça, ça a de conséquences sur le plan de la gestion. Et je pense que c'est l'aboutissement d'un processus ou de plusieurs erreurs qu'on n'a pas pu corriger à temps. Aujourd'hui, quand on parle d'une recapitalisation, d'une ligne de refinancement de 40 millions, mais bon, quand on dit qu'une banque a des solides fondamentaux et qu'elle manque 40 millions, ça fait sourire. Et je pense que là, c'est que toutes les explications n'ont pas pu dire, c'est établir les responsabilités. Pourquoi il y a eu une brusque suspension des lignes de refinancement? Pourquoi? Qui est responsable? Et c'est ce que l'opinion n'a pas compris. Pourquoi il y a eu un brusque arrêt de financement pour une banque aussi importante? Ils ont même dit une banque qui a un réseau systémique à travers tout le territoire national. Et donc là, l'État congolais a donné un signal extrêmement négatif face à l'opinion publique et face au climat d'affaires qu'il tente d'assainir. Au moment où plusieurs autres institutions financières lorgnent sur le Congo, qui a un gros capital, et aujourd'hui il y a les assurances qui lorgnent, les grands majors des assurances lorgnent sur cet État qui a un gros capital sur tous les domaines, mais des signaux comme ça, je pense que ça peut faire refroidir une grande partie de financiers qui comptent investir dans ces domaines au Congo.
Est-ce qu'il faut comprendre par là que la BIAC est elle-même responsable de la situation telle que nous aujourd'hui?
Responsabilité, oui, il a une responsabilité. La responsabilité est partagée, je pense, entre la banque.
La BIAC et le gouvernement.
Oui, mais pourquoi le gouvernement n'a pas payé les crédits qu'il avait garantis, pour lesquels il s'était porté garant? La BIAC a financé la restructuration des sociétés publiques, comme la Poste. La BIAC a financé également la police nationale, qui n'a pas les moyens de payer aujourd'hui son crédit. Et le gouvernement s'est porté garant. Pourquoi avoir arrêté? C'est là que certaines personnes, je pense, commencent à égratigner et dépoussiérer pour voir s'il n'y a pas, d'incidence politique sur la décision que la banque centrale a prise. un arrêt brusque du financement qu'il doit, qui n'est pas une faveur, c'est un droit de la banque.
José Boto, journaliste indépendant, responsabilité partagée entre le gouvernement et la BIAC.
Bon, tout à fait, hein. Moi j'adhère à ce que Jean-Claude vient de dire. Et c'est important parce que c'est qui quitte le plus aussi le fait que l'État soit en partie responsable de ce qui arrive du malheur de la BIAC. C'est ça le problème. Alors que l'État devait être le garant hein, du bon fonctionnement de tout ce qui se passe au Congo. Et vous savez, Kelly, on apprend aux gens la culture bancaire. Au Congo, on apprend aux gens à aller laisser l'argent à la banque, aller faire leurs épargnes à la banque. Alors, avec des choses comme ça, vous savez, c'est un problème de confiance qui va se créer et on risque de retourner à la case départ. Je sais qu'on est l'un des pays où le taux de bancarisation est le plus bas au monde et avec ce genre de situation, c'est pas de nature à inciter les gens à aller déposer leur argent à la banque. Vous avez vu ce qui s'est passé.
Malgré les garanties du gouvernement demandant aux épargnants de continuer à faire confiance à cette banque.
Puisque le gouvernement lui-même, il fait partie du problème. Il fait partie du problème lui-même. Alors, voilà, c'est un peu compliqué de pouvoir. Moi, je avec des amis, on s'est dit. Vous rendez compte que c'est qui. Moi, je pense que même le problème de la BIAC ici, ce n'est qu'un commencement. Ça risque d'avoir un effet boomerang et qu'après, on va commencer à se plaindre que les gens ne vont pas épargner, ils laissent. Et surtout que nos banques aussi ont une très mauvaise réputation, vous savez. Hein, en termes de. Enfin, les gens ne font que déposer, même pour un crédit, c'est compliqué. Les crédits, c'est carrément monnayé. Et encore, si vous avez ces crédits-là, la preuve, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, c'est à des gens à qui on a donné des crédits et qui sont insolvables que ces séries de problèmes arrivent. Alors, les gens, ils vont épargner. Quand vous allez demander un crédit, c'est karma à l'usure. Hein, le taux, c'est un taux usurier. Et alors, avec des choses comme ça, où la banque n'est pas à même de vous rembourser, de vous donner même votre propre argent, c'est compliqué, Kelly. Moi, j'ai craint qu'il y ait un effet boomerang après et que les gens soient un tout petit peu réticents.
Mais la banque parle même des difficultés passagères.
Passagères. Bon, passagères, ça, c'est une façon de parler. On sait, c'est de la communication.
Le plus important, je pense, Kelly, ce n'est pas la batterie des mesures qui a été prise, mais je pense que le plus important, c'est la réaction postérieure du public. Je suis passé, je suis un client de cette banque, mais la file est encore très importante dans les agences. Les gens ont la grande tendance de récupérer la grande partie de leur épargne, mais une banque sans épargne, à quoi servira-t-elle encore?
Jusqu'à Kaminda, depuis la province de l'Ituri, vous avez suivi cette actualité sur la situation de la BIAC. Comment vous analysez cela?
Nous avons suivi avec intérêt, comme les confrères ont dit là, les responsabilités sont partagées. Mais ici, je dois vous dire, confrères, que cette annonce des difficultés de la BIAC a failli achever le peu de crédibilité que les commerçants commençaient à refaire au système bancaire à l'aide. On se rappellera qu'il y a quelques années, si dans l'espace Beni, Butembo, Lubero, tout le nord-est de la RDC, il y a des microfinances qui sont tombées en faillite et qui ont laissé beaucoup de gens avec des problèmes parce qu'ils sont partis avec l'argent qu'ils n'ont jamais remis jusqu'à présent. Alors cette affaire de BIAC pouvait vraiment entamer déjà la crédibilité des systèmes bancaires. Ici, en Ituri, beaucoup de gens thésaurisent l'argent, ils ont l'argent dans leur maison. Les banques qui venaient déjà donner l'impression que les gens pouvaient amener l'argent en banque, mais l'affaire de BIAC a amené une crainte là. Heureusement que le gouvernement s'est ressaisi pour redonner un peu le souffle au BIAC. L'agence de BIAC ici à Bounia a fait plusieurs mois sans ouvrir. Et nous apprenons que c'est hier là que cette agence a réouvert. Nous restons voir comment les gens vont aller là-bas parce qu'avec ce qui s'est annoncé, ça va faire un peu des doutes. Hein,
mais comment les gens réagissent par rapport à cette situation?
D'abord, BIAC n'avait pas ouvert. Il y avait déjà les bureaux peints et tout ça, mais bon, ça n'ouvrait toujours pas. Nous avons compris à la fin que c'était peut-être la difficulté de Kinshasa qui avait retardé l'ouverture de BIAC. C'est hier ici, avant-hier, disons mardi, que la BIAC a commencé de l'activité ici. Voyons voir si les gens y aura engouement. C'est une question d'observer d'abord. La BIAC n'avait pas encore ouvert.
Merci, Josué Kaminda. Jean-Claude Bimola, il y a certains experts qui pensent que la BIAC n'a pas appliqué la politique prudentielle reconnue à toute institution bancaire.
Bon, on peut tout dire. On peut tout dire. Aujourd'hui, il y a un problème. Et il faut chercher à résoudre ce problème. Aujourd'hui, je pense que parmi les voies d'issue,
Elle a fait confiance au gouvernement.
Oui, mais ce n'est pas le seul client de la banque. Quand vous regardez les crédits pris par le gouvernement, c'est autour de 20 millions. C'est important pour le fonctionnement d'une banque. Mais comme garantie de fonctionnement, je ne pense pas que ce soit des montants exorbitants. Je pense qu'aujourd'hui, la banque elle-même a montré l'étendue de ses problèmes. La banque n'a pas suffisamment de capitaux. Et aujourd'hui, il faut le recapitaliser. Il faut la recapitaliser, la banque. Ou ouvrir la banque aux nouveaux capitaux. Aujourd'hui, je pense que la banque devait être sous assistance administrative et financière de la banque centrale. Mais là encore, une banque centrale qui a monté tant de défaillances dans la gestion d'une petite crise pourra-t-elle avoir les capacités de gérer les situations de difficulté d'une banque au Congo? Ça, c'est notre problème. Je pense qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent être en vue.
On a suivi le gouverneur de la Banque centrale qui a affirmé que la Banque centrale a donné assez de liquidités pour assurer la bonne marche de la BIAC.
Oui, mais il n'a pas prouvé. C'est là que j'ai dit qu'il y a un problème de responsabilité. Pourquoi ne les avoir pas donnés à temps pour qu'il n'y ait pas de problème? Vous savez, entre le créancier et les clients, il n'y a qu'un seul élément qui les soude. Les crédits confiance, lorsque les clients perdent de confiance dans une banque, c'est fini, vous pouvez mettre des milliards, les gens ne viendront plus. Et c'est ça, on pourra mettre tous les milliards qu'on voudra, les gens vont traîner les pieds pour revenir à la situation ante-crise.
Vous partagez son avis, José Boto?
Oui, je partage cet avis-là. Et puis, Kelly, moi je ne comprends pas. À écouter les responsables de la Banque centrale et le gouvernement, la BIAC avait à peu près 450 millions de dollars de dépôts au niveau de la Banque centrale. Mais alors, pour une somme pareille, et c'est être en rupture de, je ne dirais pas des stocks, hein, en rupture de fourniture de ces services aux clients, c'est assez inexplicable, quoi. Ça veut dire que,
parfois... Il y a une responsabilité qu'il faut établir.
Je ne sais pas si on se moque de nous, ou... Je ne sais pas, Kelly. Hein. C'est la vérité, ou c'est juste des chiffres qu'on nous balance comme ça et que ce n'est pas vraiment la vérité? C'est ça le problème, la question qu'on doit se poser. Et je reviens encore sur le problème.
Donc l'image de la BIAC qui est entachée aujourd'hui.
Elle est vraiment
volontairement.
Volontairement.
Oui. Pour 40 millions, c'est inexplicable qu'on puisse compromettre la vie d'une institution financière aussi importante que la BIAC.
Alors José.
Moi, je n'arriverai pas jusqu'à
à dire volontairement,
mais en tout cas l'image de la BIAC est très entamée au niveau de l'opinion. Ça, c'est très entamé. Et j'ai peur pour la suite, quoi.
Jusqu'à Kalinda, comment vous entrevoyez la suite de la situation qui prévoit actuellement à la BIAC? C'est vrai que le gouverneur de la Banque centrale a affirmé que la Banque centrale a donné assez de liquidités pour assurer la bonne marche de la BIAC. Est-ce que cela suffit pour que les clients ou les épargnants redonnent confiance à la BIAC?
Avant ma concert, ça serait un peu difficile. Je vous disais ici que la BIAC a terminé l'image du système bancaire ici à l'Est. Et beaucoup de commerçants ici, les hommes d'affaires, logent leur argent tantôt en Ouganda, au Rwanda, dans les pays étrangers. Et ceux qui savent ce qui se passe avec la BIAC, la paix les renforcer dans leur volonté d'aller loger leur argent ailleurs. J'ai dit encore ici qu'heureusement que le mouvement s'est réussi, mais ça sera vraiment une tâche très difficile pour refaire la confiance qui est la population ici. Parce que déjà, l'histoire des sociétés financières, des coopératives financières qui avaient laissé les gens avec leur argent est encore frais dans la mémoire. Je ne vois pas comment les gens vont se refaire vite. Mais nous espérons qu'avec l'appui du gouvernement, tout peut revenir à la norme.
Merci Josquet Kalinda. Deuxième et dernier thème de ce soir, rencontre Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi à Bruxelles en Belgique. Moïse Katumbi parle d'une rencontre pour négocier une candidature unique de l'opposition à la prochaine élection présidentielle, tout en insistant sur les délais constitutionnels. Pendant ce temps, à l'UDPS, le secrétaire général de ce parti affirme que son parti va aller seul à la course au présidentiel de 2016. Il a dit hier jeudi au cours d'un point de presse. Pour Bruno Mavungu, le choix d'un candidat unique de l'opposition n'est pas à l'ordre du jour dans son parti politique, puisque l'UDPS a beaucoup milité dans ce pays et il n'est pas prêt d'hypothéquer le devenir du peuple congolais dans une voie qui n'augure rien de bon. Pour Bruno Mavungu, l'essentiel est de travailler pour l'organisation des élections apaisées qui permettront une alternance sans heurts en RDC. Le secrétaire général Bruno Mavungu explique la position de l'UDPS au micro de Jacques-Yves Molima.
Ce sont les mêmes gens qui ont travaillé pour priver au pays le deuxième tour. Parce que généralement, les alliances se font au deuxième tour. Les alliances, c'est bon pour gagner. Mais si c'est pour gagner qu'on doit être ensemble, alors j'ai dit que la raison n'est pas suffisante. À moins qu'on me dise que cette fois-ci, nous dans l'opposition, puisque nous aurons le candidat unique, nous aurons aussi des chars de combat pour opposer aux autres chars de combat. Nous avons gagné cette élection et nous avons rencontré des chars de combat. On peut même s'unir pour obtenir 90%, mais si de l'autre côté en face sont des chars de combat, vous ferez quoi? En 2006, les armes sont sorties dans cette ville. Il y avait la guerre. En 2011, les chars étaient sortis. Allons vers un compromis politique. Monsieur Kabila est en train de partir. Nous cherchons qu'il parte de manière pacifique.
C'était là Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, José Boto. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Lorsqu'on suit toute cette polémique autour de la candidature unique au sein de l'opposition, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on tend vers une rupture de l'opposition?
L'opposition n'a jamais été unie, hein. Ça, c'est ce qu'on doit reconnaître. L'opposition n'a jamais été unie et la preuve, elle est là. C'est vraiment, vous sentez, c'est deux sons de cloche différents.
Mais il y a quelque temps, on a semblé voir une opposition unie pour
C'est un peu dire pour les besoins de la cause, quoi. Est-ce unique et quand il y a une cause commune et quand la cause est entendue, chacun rentre dans son coin. Et là, je constate que comme la cause, il n'y a pas de cause commune parce que là, c'est un problème de conquête du pouvoir ou de gagner des élections. L'UDPS est pour les dialogues, pour un compromis politique avant les élections. Le camp de le G7 et Moïse Katumbi, et ils sont contre ces compromis politiques-là parce qu'ils veulent pas qu'il y ait glissement entre guillemets. Alors je vois pas comment on pourra concilier leurs vues. Parce que là, c'est, au départ, déjà, c'est pas évident, là. Bruno Mavungu vient de le redire tout à l'heure dans l'élément que vous venez de faire passer, là. Et ça, c'est le plus, la chose la plus importante d'abord à résoudre. Le problème le plus important à résoudre, c'est celui-là d'abord. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Les uns veulent aller au dialogue pour trouver un compromis pour que Kabila cède le pouvoir facilement, enfin, je veux dire, comment ils disent pacifiquement? Mais les autres, ils disent, nous, c'est jusqu'au boutiste, il faut qu'il y ait absolument élection dans les délais constitutionnels. Voyez, Kelly, et comment vous allez me dire que ces deux points de vue peuvent se concilier et pour qu'on ait un candidat unique? Non, je pense pas.
Ça sera difficile, donc, c'est difficile pour l'opposition d'avoir un candidat unique.
Et ça, c'est le propre de l'Afrique, hein. Hein, du nord jusqu'au sud, je vois pas un pays africain, surtout l'Afrique noire, où il y a eu cette sorte de coalition pour un candidat unique, non.
Jean-Claude Bimola, éditeur et directeur des publications du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Il y a eu cette rencontre de Bruxelles entre Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi pour parler justement, selon Moïse Katumbi, d'une éventuelle candidature unique de l'opposition. Vital Kamerhe était attendu à cette réunion. Malheureusement, il ne s'est pas présenté. Il y a eu plusieurs interprétations par rapport à cette absence de Vital Kamerhe. Comment vous comprenez cette attitude de Vital qui avait donné son accord de prendre part à cette réunion, puis en dernière minute, il s'est désisté?
Oui, moi je pense que la démarche de Moïse Katumbi est une démarche cornélienne, simplement. Ça sera absolument difficile de concilier les grands égaux qui sont dans l'opposition, qui est Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe essentiellement. Parce que, la démarche la plus élémentaire pour Katumbi, elle est simple, la plus logique, c'est lui qui est venu fraîchement du pouvoir, c'est venir aider les autres à aller plus vite. Il ne doit pas se mettre dans sa tête que les autres vont lui dérouler un tapis rouge pour que lui marche sur le pouvoir. Non. Et s'il veut, s'il est effectivement candidat, il doit prendre ces donnes-là en considération. Et il peut se battre tout seul. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Les grands pièges avaient été placés lorsqu'on a enlevé le deuxième tour à la Constitution, au scrutin présidentiel. Et ce n'est qu'à ce deuxième tour-là que les gens peuvent se coaliser. Mais à l'étape actuelle où la Constitution ne prévoit qu'un seul tour,
on n'a pas besoin d'une coalition, on n'a pas besoin d'une coalition.
Même avec 20%, on peut devenir chef de l'État. 15%, vous pouvez devenir chef de l'État. Et c'est ça, je pense que Katumbi, qui a un grand capital, peut décider de se battre. C'est ça la politique, c'est l'art du risque, c'est l'art de l'imprévisible. Je pense qu'il peut se lancer dans la bataille tout en défendant les idéaux fondamentaux de l'opposition et faire la conciliation après. Moi, je pense que c'est la démarche. Maintenant, j'estime que c'est une perte de temps. Aucun opposant de grand calibre ne va dérouler le tapis rouge pour lui. Il doit apprendre, c'est ça la politique, il doit apprendre à se battre, à se mouiller. Et il n'attendra pas de cadeau, ni de ses adversaires, ni de ses partenaires.
Josquin Kalinda, éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille Bounia, est-ce que l'opposition a besoin d'une coalition, a besoin d'un candidat unique pour battre le candidat de la MP à la prochaine élection présidentielle?
Les confrères l'ont dit, moi j'ai toujours dit que l'opposition ne cherchera jamais à avoir un candidat unique. Parce que quand vous regardez l'histoire du pays, je ne vois pas l'UDPS accepter que quelqu'un d'autre, à part ce que qui prenne les rênes du pouvoir. Je ne vois pas non plus Kamere qui a milité avant Katumbi, qui vient seulement de se séparer de la mouvance présidentielle il y a quelques mois, laisser à Katumbi la place. Le problème au Congo, c'est que nous n'avons pas de parti politique. Parce que les partis politiques ne se regroupent pas sur les bases des idéaux. Les partis politiques se regroupent sur les bases des intérêts. Moi, je suis en Ituri, j'ai fait du Kembo, Bénin, l'Est, le Nord-Est. Tous les partis qui créent à Kinshasa n'ont même pas de bureau ici. Je ne sais pas quel parti, le G7 a un bureau ici, avec quel membre. Tous ces partis-là sont sur place à Kinshasa, n'ont pas de bases. Alors, les rares partis qui ont quelques bases ici, comme MLC, SINC, et puis UDPS, pensent qu'ils sont suffisamment implantés pour que des petits partis viennent leur donner des pions. Mais ici, en Afrique, généralement, même au Congo ici, les partis politiques ne sont pas votés. On vote les personnalités. De ce point de vue personnalité, Katumbi a une personnalité, Tshisekedi en a une, Kamere aussi en a une, et puis il n'y aura pas de deuxième tour. Je ne vois pas pourquoi on doit chercher à avoir un candidat unique. On laisse chacun se battre et à la fin, celui qui va l'emporter, comme l'a dit un confrère, avec 2% ou 1% pourvu qu'il soit le premier, il sera président de la République. Et je ne vois pas comment l'opposition va faire bloc. D'abord, bloc contre qui? On ne sait même pas qui sera le candidat de la majorité. C'est pas, il y aura quel poids par rapport à celui qui sera mis en place. On va juger la candidature unique par rapport à qui? Parce qu'on ne connaît même pas encore l'adversaire.
José Boto, vous pensez, comme Jean-Claude Bimola, que c'est une perte de temps inutile de chercher à avoir un candidat unique de l'opposition?
Oui, c'est. Bon, je ne dirais pas que c'est vraiment une perte de temps, mais bon, peut-être qu'on se trompe des combats actuellement. Parce que les combats actuels pour l'opposition auraient été quoi? C'est d'abord de voir clair dans tout le processus électoral. Hein, parce que jusque-là, c'est encore flou. Il n'y a pas une programmation au niveau de la CENI par rapport à ces élections. On ne sait même pas si elles vont avoir lieu. On ne sait pas comment ça se fera, etc., etc. On a vu, il y avait même des élections qui devaient avoir les provinciales et n'ont pas eu lieu. On ne sait même pas si on les a programmées. Alors, ça,
c'est le point de vue de Vital Kamere qui estime qu'il faut d'abord aborder les questions liées au calendrier électoral, au processus.
J'ai le même point de vue que Kamere, peut-être.
Candidat unique.
Oui, mais peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, on se trompe peut-être des combats. Je suis désolé de le dire, mais penser à un candidat unique, à la candidature unique de l'opposition maintenant, là, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura ces élections et quand est-ce qu'elles vont avoir lieu, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Hein.
Est-ce que ça ne donne pas un avantage à l'opposition, le fait d'avoir un candidat unique face à celui que la MP va présenter, Jean-Claude Bimola?
Bon, au lieu d'un candidat unique, moi je pensais qu'il pouvait lutter d'abord pour un programme unique. Et lorsque vous avez un programme unique, vous pouvez chercher un candidat qui peut porter
ce
programme.
C'est difficile d'avoir quand même un programme unique.
Et parce que c'est ce que mon confrère de l'Ituri vient de dire. On n'a pas d'idéologie. Les gens de gauche et de droite peuvent se coaliser pour combattre une personne, pas un idéal. Vous comprenez que ça sera extrêmement difficile. Il y a des libéraux dans l'opposition, il y a des nationalistes. Tshisekedi, c'est un nationaliste. Kamere, c'est un libéral. Katumbi, c'est un libéral. Je ne sais pas qui, c'est un centriste. Et comment ils peuvent mettre un programme commun? Mais pour avoir un candidat commun, il faut avoir un programme commun. C'est là que je dis que c'est peine perdue. Chacun doit avoir les moyens de soutenir une campagne électorale sur le plan financier, sur le plan moral et sur le plan des ressources humaines. C'est cela. Comme ils sont incapables de se mettre ensemble, je pense que chacun doit être en mesure de mobiliser les moyens nécessaires pour aller jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, au Congo, on peut devenir président même avec 10%. Donc, s'il y a 100 candidats...
Peut-être que ce qui est important pour l'opposition aujourd'hui, c'est de battre la majorité présidentielle. C'est peut-être ça qui préoccupe l'opposition aujourd'hui.
En fait, et sans programme. Sans un programme à présenter, une alternative en fait. Bon, le pouvoir avait cette histoire des 5 chantiers, là, etc. Okay. Mais qu'est-ce que vous présentez, en contrepartie quoi. C'est quoi votre programme? C'est quoi les contraires Vous voulez qu'on vous élise sur base de quoi? C'est ça le problème avec l'Africain. Vous voulez bien avoir le pouvoir, mais pour faire quoi? Non, moi je veux juste prendre la place de Kelly. Mais vous, pour faire quoi concrètement? Non, je veux seulement que Kelly ne soit pas là. Et c'est ça vraiment un idéal. Et c'est peut-être là qu'on se trompe de combat. On veut avoir une candidature unique. Pourquoi? C'est justement ça le problème. Parce que jusque-là, même Katumbi, candidat, etc., j'ai vu les G7 ici dire que bon, son candidat c'est Katumbi. Sur quel programme? Non, parce qu'il a été un bon gouverneur aussi. C'est vraiment ça un programme.
Cela ne suffit pas.
Non, c'est pas suffisant.
Jusqu'à Kabila, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral?
Je pense qu'en fait que si les opposants ne s'organisent pas bien, ils vont aller en ordre dispersé, ça va casser plus tard. Mais je pense que je ne vois pas que Tshisekedi laisser la place à Katumbi, je ne vois pas non plus Katumbi laisser la place à Kamere. Ils se suspectent initialement, les uns disant qu'il y a des vrais opposants, d'autres des faux opposants, les grands problèmes, les idéologies qui sont divergentes, et aussi le fait que pour l'IDPS, il a toujours considéré qu'il a toujours été trompé. Quand on regarde un peu l'histoire, vous regardez la conférence nationale, on a créé une troisième voie par les mêmes gens qui étaient avec Tshisekedi. Quand vous regardez les sanctions, les accords de cascade, MLC et les pouvoirs se sont rencontrés, Tshisekedi est resté avec l'RCD. Quand il fallait le quatrième président, l'RCD a libéré Tshisekedi, est parti. Et Tshisekedi est en une des places simples qu'ils ont toujours été trompés. Et je crois que c'est la prudence qui fait qu'ils ne puissent pas marcher. Et moi, je pense que les processus, si les politiques congolais ne s'entendent pas, j'ai toujours dit aux amis ici que le Congo a toujours vécu de présidents surprises. Mobutu est venu là où les Tshombe étaient là. Kabila Pierre est venu là où les Tengo, les Tshisekedi étaient là. Kabila Sissé est venu là où les Kaïtan Kakoudji et les autres étaient là. Nous risquons d'avoir une surprise si les politiciens congolais ne s'organisent pas. Les grands du monde vont se prendre encore avec un inconnu.
Donc on sent une certaine méfiance entre ces leaders de l'opposition, malgré l'image qu'ils nous présentent dans les médias, l'image d'une opposition unie.
L'opposition pourrait être unie, comme on disait, s'ils avaient une même idéologie. Et je me rappelle que j'avais reçu quelqu'un ici, un député national, qui me disait au studio, il dit que si ça ne dépendait que de l'idéologie, l'IDPS et le PPRD devaient être dans le même bloc. Vous voyez qu'au Congo, les gens sont là pour leurs propres intérêts, ils ne voient pas l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation. Et c'est pourquoi moi je pense que si nous sommes distraits, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas ceci, le grand du monde va décider, nous aurons un inconnu qui viendra encore faire la surprise.
Puisque vous parlez du dialogue, vous pensez que l'opposition devrait aller au dialogue?
Moi, je ne veux pas les dialogues dans les chances d'organisation des élections, parce qu'il faut être sincère. Jusqu'à quelques 8 mois ou 7 mois de l'échéance, il n'y a pas encore un mot sûr pour savoir si les élections seront là. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'il faut s'il n'y a pas élection. Moi, je pense que les dialogues doivent tourner vers ces choses-là. Parce que la CENI a déjà dit clairement qu'il n'a pas les moyens. Et jusqu'à d'où viendraient ces moyens? Les dialogues dans les chances de trouver quelle issue avoir quand il n'y aura pas élection. Je pense que c'est un bon dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il y aura un vide. Et le vide, là, va profiter à celui qui sera plus fort.
Merci Josca Kaninda. On va considérer cela comme votre conclusion. José Boto, vous allez aussi conclure. Un dernier mot.
Moi, je conteste seulement qu'il y a un foisonnement de regroupements, là. Comment on appelle ça? Des plateformes. Il y a une autre qui vient de naître, là. Il y a 2 ou 3 jours comme ça, il y a une plateforme qui vient de naître aussi. Où c'est le sénateur Mokonda qui en est le président. Il y aura une multiplication de plateformes comme ça et je pense qu'on s'en sortira pas, Kelly, en tout cas. Notre position, elle sera toujours désunie. Ça, il faut qu'on s'en rassure.
Jean-Claude Bimola, chacun doit aller seul de son côté.
Bon, je pense que c'est cela l'image de notre classe politique. Pour l'instant, je pense que l'opposition doit peut-être trouver d'autres occasions de s'unir parce que pour celle-là, elle me paraît perdue.
Merci, cher confrère, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Paul Badianiama, qui était à la prise de son, réalisation Guy Maté, présentation Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocatif.net. Votre fil de programme sur la fréquence de la paix.